Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et Michel Poitevin est là, au bout du fil. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Michel, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Michel, vous parlez d'inflation, l'inflation qui est en hausse au Canada pour le mois de mai, pour ouvrir votre chronique, c'est le sujet.
Ben oui, on a annoncé les nouveaux chiffres d'inflation pour le mois de mai. Peut-être sans surprise, l'inflation s'est accélérée. Là, on était à 2,8% en avril sur une base annuelle toujours. On est maintenant à 3,2%, quand même une hausse de 0,4 de point de pourcentage. Au Québec, on est passé de 3 à 3,6%. Donc, l'inflation s'est accélérée, mais en même temps, on s'inquiète pas trop. Pourquoi? Parce que le mois de mai, on est en pleine guerre avec l'Iran. Et puis, le prix de l'essence a augmenté de 33%, ce qui a fortement contribué à la hausse de l'inflation générale. Mais il n'y a pas juste l'essence, l'alimentation aussi, 4,3%. Puis c'est un peu relié aussi à la guerre en Iran. Le prix des engrais a augmenté, le transport et tout. Donc, ça affecte aussi le prix des aliments parce qu'ils viennent pas tous de notre petit jardin à l'arrière. Mais c'est le 16e mois où l'inflation alimentaire est plus élevée que l'inflation générale. Là. C'est quand même... la nourriture, ça coûte malheureusement de plus en plus cher. Donner un petit exemple là, qu'on citait dans le journal, le prix des tomates a bondi de 45% sur une base annuelle. Les tomates, il y en a beaucoup qui viennent du Mexique. Et puis, ont eu des conditions de culture difficiles au Mexique, c'est la première chose. Puis, deuxièmement, le président Trump a mis des tarifs sur les tomates mexicaines. Alors, les fermiers mexicains ont décidé de, en partie, là, évidemment, c'est pas tout blanc, tout noir, mais ont réduit, si vous voulez, la superficie cultivée pour les consacrer aux tomates. Et alors, donc, ça réduit l'offre de tomates, puis ça fait augmenter le prix. Là, on espère, avec la chaleur qui nous arrive, qu'on va avoir des belles tomates locales à un prix abordable.
Oui, des tomates qui goûtent les tomates, là. Habituellement, ça arrive au mois d'août.
C'est ça. Ouais. On va voir. Peut-être l'autre bonne nouvelle, c'est que la guerre en Iran, elle a cessé. Là, pour combien de temps, on ne le sait pas, mais il y a quand même eu un accord de signer, puis il y a des pourparlers qui prennent place. Puis le détroit d'Ormuz est réouvert. Là,
mais là, dernièrement, on l'avait fermé, là, me semble.
C'est ça, mais on négocie encore. Donc, je suis assez confiant qu'il va être réouvert s'il n'a pas déjà été réouvert. Là, effectivement, l'Iran, je pense à la fin de la semaine dernière ou en fin de semaine, avait annoncé qu'il le fermait.
Bon, on se croise les doigts pour qu'il rouvre.
Exactement. Mais pour montrer que les marchés sont optimistes, là, le prix du baril de pétrole a baissé à 77 $. Avant la guerre, il était à 60. Donc, on est encore en haut du 60. Par contre, pendant la guerre, on a dépassé le 130 $ le baril. Là, on est à 77. Alors, ça nous laisse supposer que le prix de l'essence, du transport, de l'énergie va baisser, puis peut-être qu'on espère que les chiffres d'inflation pour le mois de juin, là, qui est presque terminé, soient meilleurs que ceux de mai.
D'accord.
Ça va être à suivre.
Oui, comme souvent vous le dites.
C'est une histoire sans fin.
Ainsi va la vie.
J'ai encore du travail avec vous. Ça ne finit jamais.
Oui, ça ne finit jamais. Vous vouliez nous parler de la bourse, Michel?
Mais oui, on n'en a pas vraiment parlé. Vous avez fait pas mal les manchettes, là, si vous vous souvenez, il y a deux semaines, SpaceX, là, la compagnie de Elon Musk, ouais, faisait une entrée en bourse. Donc, c'est une compagnie qui était financée par des capitaux privés. Puis là, on décide de faire appel à ce qu'on appelle l'épargne publique. Donc, on met des actions disponibles pour le public. Donc, les gens peuvent devenir, entre guillemets, propriétaires de SpaceX en achetant une action. Donc, cette entrée-là en bourse, c'était vendredi le 12 juin. Peut-être juste avant de parler ce qui s'est passé, là, pour bien sûr être sûr de ce dont on parle, SpaceX, il y a toute la division espace, là, les fusées qui retournent sur la planète mises en orbite de satellites d'Elon Musk, mais il y a aussi Starlink, là, qui est une compagnie profitable. Elle a déployé un réseau de satellites, là, au-dessus, à basse altitude pour donner de l'Internet aux gens qui n'ont pas le réseau le réseau filaire comme on pourrait avoir les antennes et tout. Donc, c'était l'Internet donné par satellite. Puis, il y a aussi l'ex-Twitter qui s'appelle maintenant X, là, qui est sous le chapeau de SpaceX. Donc, ce sont principalement ces trois divisions-là, l'espace, Starlink et X. Donc, il y avait une folie. Là. On avait décidé de mettre en vente les actions à 135 $ américains, ce qui était déjà énorme. Mais là, il y avait tellement de, excusez-moi l'anglicisme, de buzz ou de folie. Il y a eu une demande excédentaire. Donc, c'est pas tout le monde qui a pu acheter la première émission parce qu'à 135 $ il y a un certain nombre d'actions qu'on met en vente. Mais la demande dépassait le nombre d'actions. Mais là, une fois que SpaceX est coté en bourse, les gens peuvent transiger. Puis rapidement, le prix, je pense, dans la même journée, a augmenté à 225 $ Donc, ce que certains ont payé à 135 le matin, ils auraient pu le vendre à 225 en après-midi. Mais depuis, ça va moins bien. Là, je pense qu'il y avait beaucoup de spéculation là-dedans. À la clôture, hier, le prix était revenu à 157 $ Puis tout à l'heure, je surveillais juste avant la chronique, là, puis il a peut-être même encore bougé depuis, mais on était à 148. Donc, le prix baisse. On se rapproche du prix de 135, puis ce ne serait pas étonnant même qu'on aille plus bas que le 135 dans les prochaines semaines. Mais tout ça, ça évaluait la compagnie SpaceX à 2 billions de dollars. Alors, billion, c'est 1 000 milliards ou 1 million de millions de dollars. Ce qui n'est quand même pas des peanuts.
Non, c'est loin d'être des peanuts. C'est beaucoup de peanuts, en tout cas.
C'est ça, mais c'est très spéculatif parce que dans les compagnies où j'ai nommé X, on ne sait pas trop si ça fait de l'argent. On a l'impression que non. Là, souvenez-vous, Elon Musk avait payé une fortune pour acheter Twitter. Starlink est profitable, mais SpaceX, là, la division espace, là, ça aussi fait également des pertes, mais il y a quand même une technologie derrière ça qui était très novatrice. Avant, la NASA dépensait des centaines de millions à envoyer une fusée dans l'espace, on perdait la fusée, puis Elon Musk a eu l'idée de dire, ben là, si on les envoie dans l'espace, peut-être qu'on devrait les ramener puis les réutiliser. Ce qui est bon aussi pour l'environnement. Là. On ne gaspille pas une fusée à chaque fois qu'on envoie un satellite. Donc, je pense qu'il y a un bon chiffre d'affaires, mais ils font quand même des pertes. Les coûts sont très élevés.
Et puis, on a un petit peu de temps, Michel, pour aborder le taux d'intérêt directeur américain. La semaine dernière, vous en aviez parlé, le taux d'intérêt directeur américain qui devait être annoncé le lendemain de votre chronique. Alors, que s'est-il passé? Bien.
Mercredi dernier, le 17 juin, bien finalement, tel qu'attendu, on avait parlé, là, les experts s'attendaient à ce que le taux ne change pas, puis c'est ce qui est arrivé. Puis le nouveau gouverneur, là, Kevin Warsh, a pas cédé aux pressions du président, là, parce que le président l'a nommé en espérant qu'il baisse les taux. Là. Je pense qu'il avait même fait un peu son plaidoyer, Kevin Warsh, pour avoir l'emploi, que dire que lui, il pensait qu'avec l'intelligence artificielle, la productivité augmenterait beaucoup, puis on pourrait baisser les taux d'intérêt. Bien là, il les a pas baissés. Il y a eu la guerre en Iran. L'inflation aux États-Unis est assez élevée. Là, les derniers chiffres étaient la placés à 4,2. Il a résisté à ça. Et puis peut-être fait nouveau, là, quand je pense que j'en parlais la semaine dernière, de regarder un peu les mots, parce que souvent on fait une annonce, mais de la façon qu'on l'annonce, ça peut laisser présager ce qui va se passer pour le futur. Lui, il a vraiment joué son rôle de banquier assez muet. Là. Il a simplement annoncé, voici, le taux directeur ne change pas, puis il n'a pas laissé entendre ce qui se passerait pour le futur. Donc c'est ça. Donc les taux américains sont stables. Si la guerre en Iran arrête et puis l'inflation diminue, est-ce qu'il va être tenté de baisser? Probablement. On verra ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Un autre, on verra.
Oui, on verra. J'ai regardé, Hormuz, vous aviez raison, le trafic continue malgré l'annonce iranienne d'une refermeture du détroit. Okay. Alors, c'est une vraie saga, cette histoire-là.
Oui, on n'est pas au niveau du trafic qu'on avait avant la guerre, mais ça a repris.
Oui. Et en terminant, Michel, le Canada veut augmenter le nombre de réacteurs nucléaires au pays?
Oui. Au Canada, on a 17 réacteurs nucléaires en activité en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Puis ça fournit 13% de l'électricité au pays. La stratégie du Canada en matière d'énergie nucléaire a été dévoilée lundi, donc hier. Et puis, on veut augmenter significativement le nombre de réacteurs. On veut avoir 10 nouveaux réacteurs de grande taille en opération d'ici 2050 pour doubler la capacité. Donc, on en veut Ah, pardon. C'est ça, 10 d'ici 2050, 2 d'ici 2035, 5 autres qui devraient être planifiés là, ou mis en construction d'ici 2040. Ça pourrait coûter 100 milliards de dollars ou plus. On ne dit pas comment on va les financer, mais en même temps, l'énergie, on peut la vendre. Là, donc, ça attire quand même des revenus. On peut mentionner que au Canada, on produit énormément d'uranium. On est le deuxième plus gros producteur d'uranium au monde. On a 24 % du marché. Puis évidemment, pour le nucléaire, ça prend de l'uranium. Ça se trouve surtout en Saskatchewan. Et puis, on a quand même une technologie canadienne, CANDU, là, qui est utilisée dans plusieurs réacteurs ailleurs dans le monde. Les États-Unis ont 94 réacteurs. Là, si on veut se situer, nous, on en a 17. En Chine, il y en a 61. Puis en France, si vous vous promenez en France, on en voit régulièrement sur les routes. Là. La France en a 57. Moi, je pense que c'est une bonne idée. On a toujours des craintes pour le nucléaire, mais c'est quand même, si elle est bien encadrée, bien conçue, une énergie qui est propre par rapport à brûler des énergies fossiles. Je pense que c'est une bonne voie à aller, d'après moi, là, pour augmenter notre production d'électricité.
Merci pour cette chronique, Michel, et on vous souhaite une belle Saint-Jean, une bonne fête nationale.
Il faut s'en souvenir, je me souviens.
J'espère bien. Il faut fêter aussi. Célébrons. Oui. À bientôt.